Nous parlons de gigantisme animal tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Sébastien Steyer qui est paléontologue CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle et Romain Garouste qui est paléo-entomologiste, écologue, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité. Nous l'évoquions tout à l'heure, il n'y a pas que les dinosaures qui étaient de belle taille, certains insectes aussi. Romain Garouste, vous travaillez sur certaines libellules géantes sur lesquelles vous travaillez avec une équipe de physiciens. Ce sont ces physiciens que vous avez rencontrés. Antoine Beauchamp, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai rencontré Benjamin Thiria, qui est chercheur au laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes à l'ESPCI, et Roméo Antier, qui est doctorant au sein de l'équipe de Benjamin Thiria. Tous les deux s'intéressent à la locomotion animale, aux façons dont les animaux se déplacent ou volent, et pour étudier cela, ils étudient entre autres le vol des insectes à partir de modèles d'ailes qu'ils soumettent à des simulations de vol. Ces simulations sont ensuite observées pour comprendre les contraintes qui s'exercent sur les ailes des insectes, comme par exemple ces libellules géantes aujourd'hui disparues.
Alors c'est essentiellement des recherches qui sont, on va dire, bio-inspirées et on travaille beaucoup sur les animaux. En fait, on est très inspiré par la locomotion animale. Et donc on va essayer de comprendre comment les animaux se déplacent, comment ils se déplacent en groupe. Voilà, des choses comme ça.
Alors vous travaillez sur un des sujets qui va nous intéresser. On va commencer vraiment par vos travaux les plus courants autour des libellules notamment. Comment vous travaillez sur la locomotion des libellules? Qu'est-ce que vous étudiez chez ces libellules-là et comment vous essayez de reproduire le vol des libellules en laboratoire?
On vient de démarrer un projet là très récemment, mais ça fait plus longtemps qu'on travaille sur le vol des insectes, et notamment des grands insectes. Ce qu'on appelle les grands insectes, c'est les libellules en font partie, mais il va y avoir les papillons, des animaux comme cela. Et ce qu'on essaye de voir, c'est comment le fait que l'aile soit déformable va jouer dans la façon dont ces animaux-là vont pouvoir se mouvoir. Et donc la façon dont on appréhende ces problèmes-là, c'est en faisant des modèles très simplifiés d'ailes d'insectes avec des plastiques dont on contrôle bien les propriétés physiques. Et puis on les fait travailler en battement, donc en configuration de vol battu. Et on essaye de regarder les propriétés qui en sortent.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu le protocole expérimental de ces tests-là? Et puis, là, on a à côté de nous une petite aile qui a été disposée. Comment vous allez les observer, ces modèles-là? Et qu'est-ce que vous allez étudier?
Oui, alors ce qu'on voit là, c'est un modèle qui est très simplifié d'insectes et d'ailes d'insectes. Donc on a juste un petit système mécanique qui permet de faire du battement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer l'aile artificielle faire des mouvements verticaux de bas en haut, périodiques. Et en fait, grâce à ça, on va créer de la propulsion. Et cette propulsion-là, on va pouvoir la mesurer avec des capteurs de force qu'on a. On va pouvoir aussi visualiser la façon dont l'aile se déforme. Pour ça, on utilise de l'imagerie rapide. Et puis, donc on va pouvoir mesurer les forces, puis les déformations de l'aile.
Alors ça, c'est dans le contexte d'études sur des insectes tels qu'on les connaît aujourd'hui. On reçoit dans notre émission Romain Garouste qui lui travaille sur une espèce de libellule géante, entre autres. En quoi va consister votre collaboration et quelle sera la nature de ce travail de recherche?
Alors oui, il se trouve qu'on a rencontré Romain Garouste il n'y a pas très longtemps et qu'on a un projet qui a été financé par le CNRS pour travailler sur les libellules géantes, qui est une de ses spécialités à lui. Il nous a parlé de ces libellules, donc qui étaient des libellules géantes qui n'existent plus, mais dont on a des fossiles. Et donc l'idée, ce serait de reprendre les grandes caractéristiques des ailes de ces fossiles et puis de les tester comme on a l'habitude de le faire ici au laboratoire. Et puis du coup, d'essayer de comprendre un petit peu la façon dont ces animaux volaient à l'époque. Voilà.
Alors, vous n'êtes pas paléontologue, donc je ne vais pas vous demander de décrire ces libellules-là. Ça, ce sera le travail de Romain Garouste. Mais comment vous intégrez ces contraintes de taille chez ces libellules-là dans les modèles que vous allez reproduire? Et puis qu'est-ce que ça peut impliquer comme différence avec les libellules actuelles?
Voilà, ça je pourrais pas vraiment vous répondre parce qu'on sait pas encore. Par contre, sur les effets de taille, en fait, on peut faire en physique ce qu'on appelle des mises à l'échelle. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les propriétés, donc par exemple la longueur de l'aile par rapport à son élasticité ou des choses comme ça. Et on peut reproduire en laboratoire des modèles qui sont plus simples mais qui reproduisent fidèlement les mécanismes de ces grands insectes. Donc la taille n'est pas vraiment un problème. Nous, on va surtout s'intéresser, je pense, à la structure de l'aile. Donc plutôt à sa forme, et puis savoir comment elle est rigidifiée par les réseaux de veines dont je parlais tout à l'heure, justement.
Donc moi, je m'appelle Roméo, je suis donc en thèse avec Benjamin et donc Ramiro. sur quoi? Je travaille donc spécifiquement sur les ailes d'insectes. Donc là, c'est plus moi intéressé sur les ailes de lucioles pour le coup. Mais c'est finalement assez différent des ailes de libellules. Les ailes de libellules, comme elles ont quatre ailes, elles sont des ailes très fines. Donc du coup, on va être une rigidité plutôt homogène, alors que sur les ailes de lucioles, pour le coup, on va être des ailes assez grandes, mais uniques, enfin par paire. Et donc du coup, elles ont vraiment ce rôle de veine qui sera très pertinent dans la création de force.
Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu le rôle de ces veines-là dans les ailes, parce que je crois que c'est assez crucial.
Alors justement, du coup, elles ont principalement deux rôles. Donc, le premier rôle, donc, c'est ce qu'on appelle la veine de bord d'attaque. C'est-à-dire c'est elle qui va permettre une pénétration dans l'air de l'aile sans qu'elle se plie. Et enfin, une deuxième veine qui va être plutôt une aile plutôt de support, de rigidification, qui va être plutôt transverse par rapport à l'aile et qui va permettre vraiment de supporter la membrane qui, elle, est vraiment très souple puisque c'est de la peau. Et du coup, donc ainsi, permettre une déformation notamment de pli de l'aile quand elle va monter ou en descendre par rapport au mouvement de l'insecte.
Si on en vient au modèle que vous développez là, comment vous les fabriquez?
Alors comment on les fabrique? Comme disait Benjamin tout à l'heure, c'est vraiment très simple. C'est vraiment, on prend des feuilles de millard, donc en gros de plastique, de bouteilles d'eau, qu'on vient découper aux dimensions qui nous intéressent. Et ensuite, on vient les coller entre elles grâce à des scotch double face, donc de manière extrêmement simple qu'on peut faire chez soi. Et ensuite, on les assemble sur un petit système de battement.
Si on en revient à cette collaboration avec Romain Garouste du Muséum, quels vont être les premiers travaux, les premiers tests que vous allez réaliser?
Je pense que les premiers tests qu'on va réaliser, c'est déjà d'essayer de trouver une forme simplifiée de l'aile des libellules géantes. Et puis ensuite, on fera ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire de la tester d'un point de vue aérodynamique, c'est-à-dire qu'on va la tester, on va mesurer les performances de l'aile en fait. Et donc pour ça, on a deux façons de le faire. C'est de tester ça en soufflerie, c'est-à-dire qu'on impose une vitesse de déplacement avec un tunnel qui souffle de l'air. Et puis aussi en ce qu'on appelle nous en statique, c'est-à-dire qu'on va regarder juste la déformation de l'aile dans le référentiel du laboratoire.
Voilà le reportage sur la mécanique de vol notamment et des ailes de ces libellules géantes. Romain Garouste, une réaction à ce que vous venez d'entendre?
Bah écoutez, ils ont très bien résumé le projet qu'on est en train de commencer, voilà, comme vous l'avez compris. Donc on est très content effectivement de lancer ce projet. On a été un petit peu retardé pour des raisons Covid, effectivement pour lancer, je dirais, les dispositifs expérimentaux. Mais ça va se faire. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on peut passer effectivement par cette voie expérimentale qui va nous permettre d'ouvrir plein de questionnements, enfin plutôt des pistes de réponse à nos questionnements, qui sont des questionnements à la fois évolutifs, mais à la fois, j'ai envie de dire, concrets et applicables, parce que ce que nous tentons avec ce projet, c'est de mettre en place vraiment, j'ai envie de dire, une nouvelle discipline. Vous connaissez tous, on en parle beaucoup, et c'est une réalité très utile qui est la bio-inspiration. Eh bien, nous essayons de montrer que la paléo-inspiration, c'est-à-dire aller chercher dans les formes vivantes du passé, qui finalement sont bien plus nombreuses que celles de l'actuel, on peut aller chercher dans les formes du passé des solutions utilisables pour les applications actuelles et des applications tout à fait intéressantes. Et c'est donnant-donnant, puisque la biologie évolutive, la paléontologie, a également beaucoup de choses à comprendre grâce à ces expérimentations pour vraiment avancer dans la compréhension de nos écosystèmes du passé.
Mais comment on explique, Romain Garouste, ces formes géantes, hein, la libellule dont il est question ferait environ 70 cm, ce qui est tout de même une belle taille, hein, si vous imaginez vous tomber nez à nez avec une libellule de 70 cm, je pense que en général on fait pas trop le malin. Elle s'appelle Meganeura moni, c'est ça?
Alors il y a eu plusieurs formes, en tout cas une des plus connues, la première qui a été décrite, est une espèce qui a été trouvée en France, effectivement, donc Meganeura moni, c'est ce qui a donné le nom de la famille, hein, les méganeurides. Depuis, on en a trouvé un peu partout dans le monde, hein, donc ça vient d'une période qui va du Carbonifère à la fin du Permien. Donc ces organismes ont tous disparu à la fin du Permien.
C'est-à-dire, pour nous donner, combien d'années la fin du Permien, c'est?
Alors, on parle, la fin du Permien, c'est il y a 270 millions d'années,
c'est ça.
Et les premières formes de libellules de grande taille sont connues depuis 330 millions d'années. Donc, on va dire un peu plus de 100 millions d'années, donc à la fin du Paléozoïque. Donc, vous voyez, ces grandes c'est cette période où ces grands insectes, comme les libellules, mais il y avait d'autres formes, dont des formes d'ailleurs complètement disparues. Il y avait aussi des insectes avec trois paires d'ailes. Donc voilà, il y avait quand même une faune d'insectes assez particulière à cette période-là. On a cru d'ailleurs longtemps que, de la même manière que vous avez ouvert tout à l'heure en nous parlant de la gigantologie, effectivement, on a cru longtemps que cette période-là, pour les insectes, était une période de gigantologie. Et finalement, en regardant de plus près, on s'est aperçu qu'à côté, on va dire sous les ailes de ces grandes formes géantes, finalement, existait aussi une faune d'insectes tout à fait normale, en tout cas classique, y compris de quelques millimètres. Si vous répondez à votre question, si vous me permettez.
Bien sûr, je vous en prie.
Finalement, le fait qu'il y ait ces grandes formes, mais à côté des petites formes normales, ça prouve bien que peut-être que les théories qui ont été émises sur la forte teneur d'oxygène dans l'air, dioxygène, finalement, était peut-être un facilitateur, probablement, pour ces grandes formes volantes, hein, puisque les insectes respirent quand même de manière assez différente des autres groupes d'organismes, hein, puisque ce sont des trachées. Ce sont des trachées dans lesquelles, effectivement, l'oxygène diffuse, mais ce n'est pas non plus des trachées qui sont totalement inertes, et la diffusion, elle est quand même souvent aidée par des mouvements musculaires, par le déplacement des organismes, par des dispositifs physiologiques qui vont aider à la ventilation. Donc, c'est pas totalement une diffusion inerte qui va permettre la respiration. Et donc, cet oxygène, mais comme facteur pas forcément prépondérant, associé à l'inexistence de formes prédatrices, eh bien, ça a mis en place une course aux armements, et donc des formes géantes d'insectes prédatrices, là, probablement, sont apparues jusqu'à ce qu'elles soient probablement contrées par les premiers vertébrés volants.
Alors c'est intéressant, on vous a mis, hein, sur notre fil Twitter le schéma du système respiratoire des insectes, qui est évidemment radicalement différent de celui des vertébrés. C'est intéressant cette hypothèse de la teneur en oxygène, puisque à cette époque, donc aux alentours de 200-300 millions d'années, la teneur en oxygène de la Terre est bien supérieure. On parle de 35% d'oxygène dans l'air contre une vingtaine de pourcents aujourd'hui, ce qui aurait en fait quasiment mécaniquement permis ces formes géantes qui seraient aujourd'hui physiologiquement et physiquement impossibles avec une teneur en oxygène de 21%. C'est confirmé ça, Romain Garouste ?
Non, c'est pas confirmé, parce que la seule façon de confirmer, donc ça a été des expériences, il existe, hein, des physiologistes qui ont étudié dans des dispositifs expérimentaux, dans des populations de vers de farine, des choses comme ça, des coléoptères. Effectivement, l'influence de l'oxygène. Ils se sont aperçus qu'effectivement, l'oxygène influait sur la taille corporelle. Mais, je dirais, de quelques pourcentages. Là, nous, on a affaire à quelque chose qui était, je dirais, des écosystèmes nouveaux, qui étaient vraiment en train de se mettre en place. La conquête du milieu aérien était nouvelle. Il n'y avait aucun organisme volant à l'époque de ces insectes géants volants. Il n'y avait pas d'autres organismes volants. Et donc, il y a eu probablement une montée en puissance de cette taille jusqu'à ce que les concurrents arrivent. Et bien entendu, l'oxygène a été plutôt un facilitateur. Il y avait probablement aussi le fait que la densité de l'air était un petit peu différente, peut-être l'air un petit peu plus dense, et finalement, qui permettait... Alors, aider non pas forcément d'ailleurs le vol battu, mais plutôt le vol glissé. Voilà, et c'est ça qu'on essaye d'ailleurs de mettre en exergue dans notre collaboration avec les biophysiciens. C'est la manière, en fait, dont on va pouvoir, nous, élaborer de nouvelles hypothèses par rapport au vol de ces insectes, par rapport à l'influence, justement, de la densité de l'air, par rapport à l'influence de la teneur en oxygène, parce que on va pouvoir tout ça le tester plus ou moins en soufflerie, ou en tout cas en conditions contrôlées, avec ces fameux modèles simplifiés. On va pouvoir tester tout cela et voir quelle est l'efficacité de tout ça. Alors, bien sûr, pas l'aspect physiologique, mais uniquement déjà l'aspect biophysique du vol. C'est déjà important.
Dernière question sur ces insectes géants, Romain Garouste. De même que pour les dinosaures, comment se fait-il qu'on ne retrouve pas ? Est-ce que on a des hypothèses qui permettent de justifier le fait qu'aujourd'hui et que par la suite, les insectes sont restés bien aux tailles que l'on connaît ? Alors même s'il y a des insectes et s'il y a des versions plus imposantes que d'autres, notamment dans les écosystèmes équatoriaux, pourquoi est-ce qu'il y a, là aussi, il y a une limite mécanique ou physique qui serait celle aujourd'hui de la taille des insectes que l'on connaît?
Alors, vous voyez, par rapport à la règle que vous avez énoncée tout à l'heure, la règle de Bergman, par rapport à l'augmentation de la taille par rapport à la latitude, là, c'est le contraire, c'est plutôt dans les milieux équatoriaux que la taille prend des proportions assez importantes, et donc vous avez des scarabées, vous avez le plus grand insecte vivant aujourd'hui, qui fait quand même plus de 50 cm de long, donc c'est un phasme géant qui est grand comme le bras, donc qui est finalement pas si plus petit que ça que la fameuse libellule géante. Mmh. Vous avez des coléoptères en Guyane qui font 20 cm de long et qui font 300 grammes. Quand vous en recevez un sur l'épaule, je peux vous dire ce que vous pensez. Voilà. Et finalement, vous apercevez que la taille de leur corps, enfin en tout cas l'épaisseur du corps, la taille des segments, sont bien plus importants finalement que la taille des libellules géantes, qui avaient des petits corps par rapport aux libellules d'aujourd'hui. Donc vous voyez, ce sont quand même des organismes qui ressemblent, ils sont dans les mêmes lignées évolutives, mais ils sont quand même très différents. Et je dirais que aujourd'hui, là, pour le gigantisme, enfin en tout cas pour les formes de grande taille que l'on trouve dans les milieux équatoriaux, eh bien là on voit, c'est encore un facteur écologique, c'est finalement l'accès à la nourriture, donc c'est vraiment l'abondance trophique et la température. Donc si vous voulez, finalement, il n'y a pas de facteur limitant pour ces organismes, et donc on peut atteindre des tailles relativement importantes.